Interview. 1. Interview.
Ok, the bird.
L'interview du jour.
Vous écoutez RDWA sur le 107.5 FM et sur internet www.rdwa.fr. Et je suis avec Paria. Salut.
Salut.
On t'appelle Paria.
Tout simplement. Comme ça. Ouais. Tout simplement.
C'est comme ça.
Depuis une quinzaine d'années, ouais, à peu près.
Bah, pourquoi plus. D'ailleurs ?
Et bah, écoute, c'était le nom de mon émission de radio que je faisais sur la région lyonnaise. Et puis j'ai commencé à traîner sur les forums avec ce pseudo-là pour que les gens identifient tout de suite que c'était l'émission de radio. À écrire des courriers avec ce pseudo-là, et puis c'est resté, de fil en aiguille.
C'est devenu ton pseudo.
Exactement.
Ouais. Et plus personne connaît ton vrai nom.
Bon, elle est proche.
C'est bien.
Le cercle restreint.
Est-ce que c'est bien ?
D'avoir un pseudo ?
Ouais.
Ouais, c'est cool. Enfin, c'est cool. Ça permet d'être identifié tout de suite, ouais, ça va vite.
C'était quoi cette émission de radio ?
Écoute, c'était ma troisième émission de radio sur le punk. Voilà, c'était 2 heures d'antenne tout seul. Je faisais 1 heure de nouveautés, de chroniques, d'actu, et 1 heure où je passais des lives pirates. Donc des trucs qui n'étaient pas trop tombés encore dans les oreilles des gens. Et puis voilà, au total, j'ai dû faire de la radio pendant 10 années, ouais.
Sur Canu ?
Brume.
Brume ?
Ah ouais, c'était soit l'un, soit l'autre. Après, ouais, j'allais squatter les émissions des potes sur Canu aussi, du coup. Voilà, comme ça, les gens, ils me retrouvaient sur toutes les fréquences intéressantes à Lyon, ouais.
Est-ce que du coup, c'est ce qui t'a permis de mettre un gros pied dans le plat du punk, cette émission de radio, c'est ça qui te lance ?
Non, le démarrage, c'est je monte un espèce de petit label de cassette live pirate dans les années 90. C'est comme ça que j'ai... Enfin, à force d'aller voir des concerts et d'entendre des gens dire « faites des trucs », voilà, j'ai démarré par là. Donc je me baladais avec un espèce de magnéto tout pourri. Je dois avoir encore la collection de la vingtaine de cassettes que j'ai fait, mais qui est vraiment d'une qualité plus que moyenne. Au début, je crois que j'ai démarré au dictaphone, pour te dire. Voilà. Et, t'imagines le truc, concert en squat avec un dictaphone. Et puis j'ai pris contact avec des groupes qui étaient super chouettes, qui trouvaient ça cool d'avoir des traces de leur passage. C'est vrai qu'on avait moins de facilité à l'époque qu'aujourd'hui avec les téléphones et tout ça, et sur YouTube le lendemain. Et voilà, de fil en aiguille, ben, les contacts se sont faits comme ça, quoi. Après, je me suis mis avec des potes à organiser des concerts, pareil. Puis je me suis dit, bah, tiens, on va faire une émission de radio, ça sera pas mal aussi, quoi, à force de voir tout le monde en faire.
Et maintenant, tu bosses avec les archives de la zone mondiale.
Ouais.
Voilà, alors pour ceux qui ne savent pas du tout de quoi on parle, on va le décrire un peu. On a commencé à dire que c'était dans le mouvement punk.
Exactement. C'est, si on veut cibler un peu plus, c'est même sur le rock alternatif hexagonal. Donc on se concentre vraiment sur les groupes des années 80. C'est un label de musique qui est... qui descend du folklore de la zone mondiale, qui était le label créé par Berruyer Noir dans les années 86-87, quand ils commencent à mettre le logo sur leur disque. Le label n'existait pas vraiment, il n'y avait pas d'existence, voilà, c'était juste une espèce de pied de nez ou de doigt d'honneur à leur label d'alors, Bondage, avec qui ils commençaient déjà un peu à se friter. Et puis ils ont commencé à le mettre, c'est sur Abracadaboum, je crois qu'on le voit pour la première fois.
Donc c'est un faux logo pour dire qu'ils ont un label. Mais
pour dire attention, ce qui vous pend au nez, c'est qu'un jour on va se marrer et qu'on va faire notre propre label. Ils ne le feront pas de leur vivant jusqu'en 89, du coup. Il y avait aussi cette espèce d'influence musicale qui était de plus en plus forte au sein du groupe, où Laurent recyclait pas mal de mélodies qui arrivaient des quatre coins de la planète, donc qui correspondaient vraiment à leur évolution musicale d'alors. Mais c'est un truc qui leur a toujours tenu à cœur. Et de fil en aiguille, quand on se rencontre en 2003 pour leur reformation à Rennes, là, ils ont déjà passé la vitesse supérieure, ils ont créé le label, du coup, FZM, Folklore de la Zone Mondiale. Du coup, ils m'ont demandé de venir leur filer un coup de main sur certains points que je maîtrisais bien alors, et on a commencé à mettre en place une distribution autogérée par le groupe, par le label sur Internet, qui deviendra après la Distro, la Distroy. Voilà, c'est comme ça que ça commence et que le label FZM, il va s'arrêter 2006-2007 à peu près. Voilà.
Alors c'est quoi justement ta légitimité à aller bosser avec ces gens-là sur un label ? Qu'est-ce que tu maîtrisais bien ?
Attends, dans le punk, il n'y a pas de légitimité, donc on arrive, on squatte, on reste présent et puis au bout d'un moment, on en est tellement rendu utile que les gens ils font « bah tu vas rester avec nous parce qu'on a besoin de toi ». Ouais, j'ai zéro diplôme là-dessus, zéro formation, tout appris en regardant les autres, en filant la main et puis au bout d'un moment, tu comprends que ce n'est pas si sorcier que ça.
Alors, c'était quoi ton boulot ?
On a mis en place, du coup, dès 2004, toute la distribution du label en direct. Voilà. C'est-à-dire aussi bien via une plateforme en ligne que d'alimenter, de prendre contact avec à l'époque, les derniers disquaires de France qui survivaient. Là, ils ne sont plus dans la même dynamique. Là, ils sont quand même dans une dynamique plutôt chouette aujourd'hui. On a à nouveau des disquaires, des nouvelles créations de disquaires indépendants qui nous contactent pour avoir nos disques. Mais à l'époque, il devait rester une quarantaine de disquaires en France qui avaient envie de bosser en direct avec les labels parce que ça permet d'avoir les disques moins chers et eux de les revendre moins chers. À l'époque, la motivation, qui est toujours celle d'archives de la zone mondiale aujourd'hui, les disques de la vague alternative, ils atteignent des cotations hallucinantes en occasion. Et aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait un album des Beru, des Ludwig ou quoi que ce soit...
D'époque.
Voilà. Ouais. Ben, nous, on lui propose un facsimilé, quoi, une copie, un pressage d'aujourd'hui, où souvent le son est meilleur, vu qu'on l'a fait remasteriser un petit peu avant, et puis où il n'y a pas de poussière, où il est pareillé, et surtout à un prix ultra, ultra abordable. Quoi, tu vois, les maxis sont à 12, les albums ils sont à 16, les 45 ils sont à 5. Voilà, nous, c'est le but du jeu. C'est, ce que je prends souvent comme exemple, c'est Viva Bertaga, le jour où on l'a ressorti, le double live en vinyle. De Berrurier Noir, la veille qu'on n'avait pas du tout communiqué dessus, la veille qu'on le mette à disposition sur la plateforme, il était encore coté à 200 € sur voilà. Et ça, on se dit, c'est ni dans l'esprit des groupes qu'on essaye de défendre, ni dans leurs propos. Et puis voilà, quelqu'un qui avait envie de l'avoir pour soit pour le jouer chez lui, soit pour le passer en soirée, enfin faire ce qu'il veut avec. Bah voilà, il peut l'acheter maintenant aujourd'hui à un prix normal. Et puis s'il veut pas l'acheter, il est dispo partout, à écouter, à télécharger, en pirate, en légal, ce qu'il veut, quoi. Voilà,
c'était la question que j'allais poser parce que, en fait, effectivement, ces albums un peu mythiques de cette scène alternative française, punk, sont pour la plupart quand même disponibles sur Internet, dans des formats discutables sans doute, en libre ou en payant. D'ailleurs, est-ce que, au passage, vous récoltez de l'argent de ceux qui font payer ces archives-là ?
On a mis de l'ordre là-dedans. On s'est retrouvé sur les plateformes payantes sans que les plateformes aient la quelconque autorisation.
Bah oui. Donc, on imagine bien, certaines. Et là, tu parlais de l'esprit de ces groupes. Ouais. Et de voir sortir un album surcoté à 200 €, effectivement, ça correspond à rien. C'était vraiment un point de départ, ça aussi, de dire, non, c'est quand même incroyable, nous, on veut pas que notre musique soit
à ce prix-là. Moi, c'était ma motive. Moi, c'était vraiment ma motive. Je l'ai expliqué au groupe, qui, des fois, sont pas... Eux, ils regardent pas les albums, enfin, ils les ont chez eux.
Non, mais ça peut faire quelque chose quand même de voir un album.
Oui, ça les fait chier, ça les faisait chier. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je leur ai dit, regardez, là, cet album, il vaut tant. Ouais, ça les faisait chier. Donc, du coup, ils ont dit, bah, allez, on y va, ouais, on les ressort, il n'y a pas de problème, quoi. Et on a la même problématique, par exemple, qu'on va résoudre très prochainement sur le bouquin, la biographie de Berrurier Noir, Conte cruel de la jeunesse, qui est introuvable et qui aujourd'hui vaut entre 200 et 300 € pour un bouquin d'une qualité plutôt moyenne, avec pas une très bonne reliure, tout en noir et blanc. On va le rééditer là à la fin de l'année et du coup ça va être ça va être encore un coup de pied au cul aux gens qui sont du fric sur la collectionnite. Voilà.
Le message est passé. Alors, les archives de la zone mondiale, c'est d'essayer de reconstituer tout ce catalogue dans un pressage moderne, remasterisé, sur vinyle en plus.
Ouais, remasterisé des fois, ça dépend des volontés des groupes, du son qu'ils ont envie d'avoir aujourd'hui.
Ce travail se fait avec eux ?
Ouais, sur le remastering obligatoirement, ouais. au moins une validation.
Même des groupes qui n'existent plus, du coup. Alors, ils viennent quand même.
Bah, écoute, tous les groupes avec qui on bosse, en tous les cas, on les a retrouvés. Ouais. Les survivants, pour ceux qui restent, certains groupes. Pour l'instant, notre corps, c'est Parabellum avec 5 ou 6 morts à leur actif. Donc, on reste avec les derniers survivants de l'époque. Et le travail sur le son, c'est impératif. Ouais, les tests pressing, ils partent chez eux, ils nous disent c'est bon, c'est pas bon, on rebosse. Des fois, il n'y a pas de remastering quand ils veulent que ça sonne approximativement comme ça l'était à l'époque, quoi.
Tu parlais des Berrues, est-ce qu'on peut en citer quelques-unes de ces grandes références de l'époque qui sont avec les archives?
Ouais, pour revenir sur ta question juste avant, en fait, les archives, moi, je dis parce que ça fait, je l'ai démarré tout seul. Aujourd'hui, il y a 2-3 personnes qui me filent des coups de main vitaux, avec qui je pourrais pas continuer s'ils étaient pas là, en fait. Et on a atteint un bon rythme. Et on a vraiment une position de... Moi, je trouve vraiment une position de comme un éditeur de bouquins. Je suis toujours en train de dire... Quand tu as envie de t'intéresser à un sujet, à une culture ou quoi que ce soit, tu as des grands classiques à lire. Ben, pour la musique, c'est un peu pareil. Et en tous les cas, sur le punk alternatif, la ligne directrice du label, c'est de dire qu'il y a des grands classiques dans le punk alternatif. On essaye de se faire un honneur de les ressortir dans des bonnes conditions et à des tarifs abordables. On essaye.
Quels sont ces grands classiques alors ?
Donc, tu as les Berrues, tu as les Ludwig, tu as Parabellum. Là, on a Tu la Vioque qui arrive, qui est un grand classique, mais qui mérite d'être découvert pour sa paillardise. Un côté un peu franchouillard. On a des choses plus récentes dans les années 2000, comme Mondragon, qui était un groupe qui a eu une existence très brève, qui s'est reformé dernièrement. Tu vois, on est potes avec les Binamés, pour qui on réédite aussi les disques qu'on distribue. Alors, des fois, on a des groupes où on gère toute la discographie, puis des fois, il y a des groupes avec qui on fait des petits bouts d'aventure. Je pense au Washington Dead Cats, qu'on a sorti un 45 tours. Il y a Verdun, dont on avait ressorti l'anthologie du côté anarcho-punk français. Ça se fait un peu au feeling. Et puis, tu vois, par exemple, les Washington Dead Cats, aujourd'hui, ils sont eux-mêmes sur leur propre label. Et puis, ça se gère super bien. Après, l'idée, c'est de se croiser sur des envies ou des petites aventures comme ça, quoi.
Et ça continue de produire aussi du frais. Parce que, alors, tu le disais, certains de ces groupes se reforment même. Il y a des archives, mais aussi du tout frais, quoi. Dans les archives de la zone mondiale.
Bah, pour l'anecdote, en fait, à l'époque de FZM, on a eu beaucoup de groupes qu'on a sorti le premier album, en dehors des Berrues, et qui ont splitté dans la foulée, quoi. Et c'était un peu l'enfer à faire la promotion, à faire connaître des groupes quand ils tournent plus, quand il n'y a plus rien qui sort.
T'as un disque à vendre, mais...
Il n'y a plus rien qui existe. Ouais. Les gens n'ont même pas eu le temps de voir le groupe sur scène.
Archive instantanée.
Et là, on a le phénomène inverse avec Archive. Du coup, l'optique du départ, c'était de fonctionner qu'avec des groupes morts pour ne pas être emmerdé. Tu vois, il n'y a pas de speed, on n'est pas dans le stress de sortie. Et en fait, les groupes, ils se remettent à vivre. Au fur et à mesure qu'on les touche, qu'on réédite des choses... ils reviennent. Alors, on a eu les Ludwig, on a Mondragon. Mais,
comment tu l'expliques? Est-ce que c'est ta faute, là? C'est la faute des archives?
Non, en tous les cas, on met zéro pression. D'ailleurs, même, tu vois, là, je parlais de Tu la
Vioque. Non, mais est-ce que c'est une occasion?
Tu la Vioque, ils se reforment et ils vont faire un concert à la fin de l'année, là.
Bah ouais.
Donc, au bout d'un moment, je sais pas, ça les met peut-être dans un truc de se dire...
Tu vois un lien ou pas? Le fait qu'il y ait des gens qui s'intéressent à rééditer tout d'un coup leur discographie, ils se disent, putain, ouais, en fait, on peut...
En je plus, peux que le constater. Je peux pas te dire il y a un lien. Non, ça vend pas forcément. Ça dépend. Il y a des trucs. C'est des petits tirages. Sur Mondragon, par exemple, il y avait ces morceaux dataient de l'époque de leur vivant. Ils ont été enregistrés l'année dernière, mais les morceaux avaient été écrits, composés de leur vivant, et il y a eu une envie tout à coup de les graver sur un support. Pour Ludwig, qui sort un nouveau maxi, un nouvel album, là, il y a carrément une nouvelle écriture, mais ça fait 4 ans maintenant qu'ils sont reformés, qu'ils tournent. Donc c'est un phénomène, tu vois. Ouais, on doit jouer. On doit être un rouage, un engrenage dans la logique qui les amène à recomposer de la nouveauté. Comme pour Tu la Vioque, tu vois, ça fait plus de 10 ans que leurs disques sont réédités par Dirty Punk en vinyle. Nous, on récupère le CD là en réédition. Il n'y a pas d'urgence, tu vois. Mais à un moment, ils ont dit, y a quand même des gens qui continuent à écouter notre musique, pourquoi pas on continuerait, quoi, ou on le referait. Souvent, ça part d'une envie de faire un concert unique ou des choses comme ça pour se refaire plaisir. Et puis, tout à coup, ils se disent, bah, ouais, tu vois, on a eu les rats comme ça, par exemple, qui devaient faire une tournée unique et puis qui continuent là, j'ai vu qu'ils annonçaient des nouvelles dates. Même nous, des fois, on est les derniers au courant, hein, tu vois. Nous, on s'occupe vraiment que des disques. On n'est pas en train de les pousser au cul pour dire, allez, faut retourner sur scène, faut vendre. C'est, non, non. Ah oui, tiens, ils rejouent encore cette année. Bon, bah, super. C'est, ouais, voilà.
C'est ça, c'est rigolo de gérer des archives, justement, de groupes qui, en fait, s'y remettent. Du coup, pour aller un peu plus loin, tu parlais des Ludwig. Est-ce que t'as suivi, compris, pourquoi en fait ces gens se remettent ensemble. C'est passé partout dans leur histoire, on a su même qu'ils s'étaient engueulés. Et en fait...
Alors engueulés, je ne suis pas sûr. Ils ont eu des points de divergence à un moment, parce que quand les groupes s'engueulent, c'est assez dur. On est sur des personnalités fortes et qui vieillissent. Donc je pense qu'à terme, des gens qui seraient vraiment engueulés, clashés...
C'était pas un clash, effectivement.
Voilà. Non, il y avait eu des divergences d'envie à l'époque où Bruno avait plus envie de se focaliser sur Sergent Garcia et que ça a un peu précipité la fin du groupe. Après... le groupe avait déjà une belle carrière quand ils ont arrêté, tu vois, ça faisait...
Avec un album qui est sorti justement sans concert.
À la force du poignet, ouais, ouais. Tu vois, le sous-dernier, là, la Révolution n'est pas un dîner de gala. Et puis, 20 ans après, ils se retrouvent. Alors, je sais, moi, ils m'avaient dit que c'était une envie qui les avait plusieurs fois parcourus. Ils s'étaient déjà retrouvés, ils s'étaient déjà entendus. Mais de la même manière que les Bérus, en fait, il y a eu plein de rendez-vous manqués. Le problème, c'est les agendas respectifs des personnes. Quand ils ne sont plus dans une dynamique de groupe, chacun fait sa vie, a une vie de famille éventuellement. Et il faut trouver de la dispo pour se retrouver, pour ne serait-ce que répéter, pour faire des concerts s'ils ont vraiment envie. Mais ce n'est pas un truc qui arrive soudainement, en fait. Dès le début, Karim m'avait dit... Il y a eu déjà plusieurs fois où on s'est retrouvés, on s'est dit, tiens, est-ce qu'on ne ferait pas des concerts ? Il y avait l'envie, il n'y avait juste pas les dispos des uns et des autres.
Et ils ne l'ont jamais tué en même temps. Ça n'a jamais été dit que Ludwig était fini. Ouais.
Exactement. Ouais, ouais. Et de la même manière que pour Beru, il n'est pas exclu qu'un jour, il y a à nouveau quelque chose qui se passe en live, parce que les membres du groupe ne sont pas du tout fâchés entre eux. Tu vois, ils sont juste sur des dynamiques... C'est compliqué d'arriver à attraper Laurent en ce moment avec toutes les dates qu'il fait sur les Ramoneurs, mais il y a vraiment que les groupes où la plupart des gens sont morts, où ça devient compliqué en fait d'imaginer qu'ils se reforment pour faire des concerts ou des nouvelles créas. Mais c'est la plupart, ça a été des moments très forts dans leur vie, tu vois, entre 20 et 30 ans. À un moment, ils avaient plein d'énergie, où ils ont vécu des choses qui les ont emmenés bien loin. Donc je pense qu'il y a toujours un côté plaisant à retrouver, tout en gardant à l'esprit quelle pertinence on peut avoir dans l'époque d'aujourd'hui. Au niveau des textes, elle n'a pas bougé d'un pouce, au contraire. Mais eux, dans leur vie de tous les jours, est-ce qu'ils sont encore en phase avec les textes? Ça, c'est une grosse question qui fait que tout le monde ne se reforme pas.
Ils sont vieux, ils sont beaufs, certains.
Il reste punk, hein. Il y a quand même beaucoup de...
Ils votent, ils ont une carte Intermarché.
J'ai été assez surpris du nombre de votants dans les groupes, alors qu'ils avaient tous une affinité, une proximité très libertaire, très anarchiste, mais... effectivement, la plupart ont toujours voté, en fait. Il va falloir remettre de la praxis anarchiste au milieu de tout ça. Mais après, on est sur les libertés personnelles et les choix perso.
Oui, blague à part, cette question de la phase possible entre l'époque, ces groupes, ce qu'ils sont devenus et leurs textes, est-ce que c'est quelque chose qu'on a pu te reprocher aux archives de la zone mondiale, à quelqu'un qui surfe tout d'un coup sur un discours qui, bon, n'existe plus trop? Et je questionne aussi le sens que ça a, selon toi, en termes d'éducation populaire. Tu disais, il faudrait que dans la musique, on ait au moins connu quelques grandes références. Mais au-delà de ça, ce discours-là, est-ce qu'il est encore valable pour toi aujourd'hui? Ce qui a été dit dans les années 80, fonctionne-t-il encore?
Le discours, il est, pour moi, il est même vital, quoi, tu vois, à mettre entre les oreilles des gens. Pas que le discours, pas que les paroles. La pratique qu'ont eu ces groupes alors, de se prendre en main, de... Il y a personne qui leur a ouvert des portes. Je veux dire, ils ont
c'est du eux, mauvais c'est... matos dans des
voilà,
coins.
Ça les a pas empêchés de faire des dates et des dates pendant des dizaines d'années à des prix super abordables, à avoir des logiques de soutien, à faire des disques où la thune elle part à des collectifs, à faire des concerts de solidarité. Enfin, pour moi à ce niveau-là, il y a rien qui a bougé, quoi. Tu vois, même au contraire, la situation elle a empiré. Et moi, j'aime bien dire, voilà, il y a quand même des gens, il y a 30 ans qui ont, enfin plus maintenant encore, 35 ans, qui ont fait bouger des curseurs, parce qu'on croyait que rien n'était possible. Et en fait, ils se sont pris en main, ils ont ouvert des squats, ils ont pratiqué des prix libres. Et, enfin bon, l'expérience en elle-même, l'histoire, je vois pas trop ce qu'on pourrait reprocher, ce qu'on... Tu vois, c'est avec le recul, même là, je crois que la période elle est encore pire aujourd'hui, donc politiquement parlant, donc socialement, économiquement. L'idée, c'est d'un peu d'agiter une lueur d'espoir, tu vois, de dire tout n'est pas noir. Effectivement, si on attend que tout nous tombe dans les mains, ça va être long, l'attente. Mais à partir du moment où les gens ils peuvent décider de se prendre en main et d'agir directement autour d'eux. Les choses, elles bougent, quoi, naturellement. Donc, ce qui manque aujourd'hui, c'est peut-être un déclencheur, quoi. Voilà. Les gens, ils ont peut-être pas envie de prendre de risques. Nous, on regarde la jeunesse, hein, tu vois. Enfin, moi, je commence à être de plus en plus vieux. J'ai poil blanc dans la barbe et tout, mais c'est souvent on regarde du côté de la jeunesse et on se dit, waouh, ils ont pas la vie facile en ce moment. Et dès qu'ils sortent pour gueuler, que ça va pas. Ils se font taper dessus. On le voit avec les rééditions qu'on fait. En tous les cas, les disques et le discours de ces groupes-là, ils continuent de toucher à fond toute la jeunesse aujourd'hui qui est en manque de repères, qui se dit putain, c'est quoi qui m'attend demain? Cadre dynamique dans une grosse boîte du 2.0, super, quoi. Voilà.
Ouais, c'est, le discours est toujours valable.
Mm-hmm.
Ouais.
Yeah!
Paria, les archives de la zone mondiale. Alors tu disais que tu avais monté ça, que tu étais tout seul. C'est un boulot c'est à plein temps.
Tu vois, je porte bien mon pseudo. Hein, c'est...
t'es paria là-dessus. Ouais, bon, les groupes t'aiment. Ouais, tu fais du bon boulot, mais t'es tout seul.
Voilà, c'était. Ouais, exactement. C'est un bon résumé. Il y a eu.
Pardon, t'as envie?
Ouais, je suis.
Au moins.
Je suis passé par tous les statuts impossibles, tu vois, et on est passé de la boîte normale à la coopérative. À un moment, on était même trois, quand on était encore à Lyon, on était même trois salariés en mode coopérative. Après, j'ai poursuivi en solo. Je suis toujours sur un statut solo aujourd'hui, professionnel. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand tu passes 80 heures à peu près par semaine sur un truc...
On peut l'espérer.
J'aime bien pouvoir m'acheter à manger aussi pour arriver à survivre entre deux colis. Et c'est un SMIC à la con, tu vois, c'est... Et tous ceux qui bossent dans la structure, c'est on n'a pas fait fortune et on fera pas fortune avec ça. J'appelle ça la boîte, mais le label, ouais, il fonctionne fort, mais on ça nous donne nous une marge pour porter d'autres projets de réédition qui seront plus confidentiels, quoi. Tu vois, on est en train de rebosser sur Cochise, par exemple. Cochise qui sera pas du tout dans les mêmes circuits de vente en plus que Beru. On va refaire à nouveau Ioka parce qu'on a épuisé les pressages des Ioka et mais ça reste des petits pressages. Là, on est vraiment sur des projets plus pour lesquels on a des convictions et beaucoup 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 d'amour et qu'on a envie de les mettre sous les projecteurs comme les autres groupes, mais qui feront pas vivre le label ou tourner le label à long terme, quoi, voilà.
Oui, il y a une part du coup que tu réserves à la réédition de petites perles rares.
Ouais, voilà, toutes les références on les aime, enfin en tous les cas moi je les aime. Après on est plusieurs, donc on a des degrés variables d'appréciation de ce qu'on sort, mais après oui, c'est les petites perles rares, c'est on se fait plaisir, voilà, c'est ça permet de donner du sens aussi. Et puis le discours et la pratique, elle n'est pas moins intéressante sur ces groupes-là, d'ailleurs. Donc, voilà, on fonce, quoi.
Comment ça fonctionne, un label? Puisque là, toi, tu parles de distribution. Ah, j'imagine que tu passes ton temps derrière un ordi et tu l'as dit, à faire des colis. Mais donc, il faut quand même un studio dans un coin qui fait les masters. Presses où?
Le début de la question, comment fonctionne un label? Pour te dire, au bout de 15 ans, moi, j'en sais rien. Je peux te dire comment on fonctionne,
celui-là,
nous.
Ouais.
Et je pense pas qu'on ait un bon exemple. Effectivement, l'activité, c'est beaucoup, beaucoup de... Vu qu'on a mis en place notre distribution directe pour pouvoir garantir les prix les plus honnêtes à l'arrivée et d'alimenter aussi les disquaires indépendants, ça c'est hyper important. Il y a beaucoup, beaucoup de stockage, de manutention, de préparation de colis. Ouais. Donc, et même pour ça, c'est pas mal de temps devant l'ordi. Et puis l'autre moitié du temps, c'est les prises de contact. Alors... Je peux te faire un schéma un peu simplifié de comment on procède pour faire un album, mais genre un coup de cœur, on se dit tiens, ça c'est un album qui nous ferait plaisir à faire. Et ben au début on met une casquette de détective privé, et puis faut retrouver les gens parce que certains ont disparu de la circulation.
Ils avaient que des pseudos en plus.
Hein. Voilà, donc c'est super simple. Quand on a retrouvé les gens,
En moyenne, combien de temps tu peux mettre comme ça pour ton maximum pour retrouver les gens d'un album?
Non, on y arrive assez rapidement, en fait.
Ouais.
Y a toujours quelqu'un dans les groupes. Aujourd'hui, c'est vachement plus simple. Hein. Au début, ça devenait compliqué, mais aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un d'un autre groupe qui a gardé un contact avec parce qu'ils étaient super potes et qui a le téléphone, le mail. Alors ça, c'est la grande misère, hein, parce qu'on s'est battu longtemps contre, mais aujourd'hui, les projets sont même accélérés avec Facebook, quoi, en fait. Très simple à retrouver les gens de l'époque avec leur page perso Facebook. Et c'est ce qui a conduit à ce que je crée une page Facebook, d'ailleurs. Sinon, on n'y serait toujours pas. Mais je me suis rendu compte que les gens répondaient plus rapidement à un message Facebook qu'à un email. Donc ça m'a un peu déprimé, mais ça a fait qu'on a sorti des disques depuis. Et donc voilà, une fois qu'on a retrouvé les artistes concernés, on teste un peu la volonté de toute l'équipe de leur côté. Souvent, ils sont tous restés en contact. Quand ils sont pas restés en contact, eh ben on prend contact avec les gens, des fois, qui sont pas en très bons termes. On essaye de les mettre d'accord autour d'un projet de réédition. Ça a arrivé aussi que des groupes se soient quittés en mode fâché.
Et tu as déjà eu des refus, du coup, suite à ça? Des groupes qui disent, bah non.
Des premiers refus, et ensuite des... allez, on le fait quand même, allez, c'est con, on va pas rester sur... Et puis, voilà, on essaie de mettre tout le monde d'accord, on trouve des... Donc là, on met une casquette de casque bleu ou de juriste, tu vois, on essaie de faire un protocole, une espèce de divorce à l'amiable, voilà, de dire, allez, vous êtes... regardez, vous êtes toujours pas d'accord, mais là-dessus, vous pouvez au moins vous mettre d'accord, puis ça permettrait que les disques continuent à vivre. Et une fois qu'on a récupéré l'accord de tous les membres d'un groupe, eh ben, il faut récupérer la matière, c'est-à-dire les bandes. Souvent, elles n'existent plus. Hein. À l'époque, les bandes étaient réenregistrées par-dessus. Je parle des bandes magnétiques, vraiment les vieilles, là où sont enregistrées les multipistes.
Genre le premier enregistrement, il est
ouais, non, il y a... On a eu ça sur... pour l'instant, j'ai eu deux groupes qui ont encore les bandes. C'est N-Brigade. Elles étaient dans un état tel qu'il a fallu un procédé... on est passé par un procédé de les passer dans un four pour leur redonner à une température... À un four...
spécial.
Ouais. Ouais, on a eu un copain qui s'est occupé du remastering et qui a fait tout le truc, pas dans le four de la cuisine, quoi. Mais avec le risque, on allait les lire une dernière fois et qu'elles allaient péter là-dedans. Et elles ont pas pété, donc tout va bien. Mais ça allait être la dernière fois qu'on pouvait les en extraire de la source. Et on a pu repartir, en tous les cas, le pressage d'une brigade qu'on a fait à partir de ces bandes. Là, on a Cochise également qui a encore les bandes du premier album, sans trop savoir dans quel état elles sont. Donc ça va être un peu la surprise si on décide de partir là-dessus. Non, souvent on part des premiers CD qui étaient les moins trafiqués, ou alors des vinyles qu'on fait numériser. Voilà, donc c'est super variable. L'intérêt de partir des premiers CD, c'est qu'effectivement, comme je te disais, il n'y a pas trop de modifications au niveau des masters, et le son il est clean, sans aucun pet, poussière, rayure... Quand on le fait faire à partir de vinyle, il y a toujours un risque de... Puis des fois, la qualité des pressages d'époque n'était pas non plus exceptionnelle, donc voilà.
Donc là, c'est une casquette de technicien.
C'est pas nous qui le faisons.
Bah non, et là, du coup, tu dois changer. Enfin, celui qui a un four, celui qui est capable de numériser des vinyles. J'imagine que tout ça, ça a un coût, d'ailleurs, avant même que tu aies sorti le vinyle.
Bah, ça explique pourquoi les disques...
C'est un truc de fou, non? Je sais pas, non.
Ça explique pourquoi les disques ont un prix à l'arrivée aussi, hein, tu vois. C'est, non, il y a tout un procédé qui est plus ou moins long selon les références. Qui va faire intervenir plus ou moins des spécialistes, des professionnels. Une fois que tu as la source audio qui est nickel, on l'envoie chez un technicien en studio pour faire un rééquilibrage, un mastering.
Donc là, aller-retour avec les groupes.
Ouais. Ensuite, on a droit à la gravure. Donc on fait faire la gravure. La plupart de nos albums ont été faits en gravure dans un studio à Paris. On peut confier la gravure pour un vinyle au presseur. Nous, on a fait le choix de la faire avec un studio externe. On essaye d'être présent au moment où la gravure se fait pour avoir une oreille, voire même s'il y a des gens des groupes qui sont présents aussi, pour permettre à nouveau de rééquilibrer un peu le son de ce qui est sorti du remastering.
Donc le pressage est français aussi.
On y a mis un point d'honneur jusque-là. On a bossé jusqu'à... Jusqu'à l'année dernière en France. Donc là, je te donne un scoop. Les pressages sont allemands dorénavant.
Et ouais.
En tous les cas, on ne voulait pas faire presser à l'autre bout de la planète. Ça n'avait aucune cohérence ni aucune logique avec le discours qu'on essaye d'avoir. On l'a fait au début, on faisait presser en Tchéquie. Et les résultats n'étaient pas super. Et un jour, on a eu un souci technique et ça a été l'enfer. Discuter technique son avec les ingénieurs tchèques et... dans un anglais approximatif, et pour lui et pour moi, ça a été une expérience redoutable. Et du coup, on est venu, on a pressé en France jusqu'à l'année dernière. Après, on a eu pas mal de petits soucis avec l'usine. On avait même trouvé une nouvelle usine de pressage en France qui fonctionnait en scope, avec qui on est allé tout de suite plein de joie et plein d'allégresse. Et puis, bon, ils avaient perdu la main. En fait, ils avaient réouvert leur département pressage vinyle. Et ils avaient clairement perdu la main. On a eu deux pressages chez eux qui ont été corrects parce qu'ils ont pressé sur du vinyle lourd. Ils n'arrivaient plus à presser sur du vinyle normal. La boîte a fait faillite assez rapidement. Du coup, on s'est orienté vers la meilleure usine de pressage européenne qui est située en Allemagne, qui fait effectivement des disques d'une qualité. Là, on n'a plus rien à dire. On a dû faire, on doit en être à 6 ou 7 disques chez eux. Et on a des belles pochettes avec des beaux disques. Il y a zéro pépin technique. Donc, on s'est dit, bon, on sait que les gens, ils sont payés correctement derrière, tu vois. Les conditions de travail à l'allemande.
Ouais, comme d'hab.
Voilà. carré. Mais du coup, dans tous les cas, on a des disques normalement qui devraient durer un petit peu, quoi.
Ouais. Et après ça, donc toute la distribution, tu en as parlé, on revient pas dessus. CD, vinyle,
numérique.
Qu'est-ce qui se vend le mieux? Le vinyle est-il vraiment en train de revivre, selon toi?
Ça dépend. On a trois réseaux de distribution différents. On a la distribution que nous on assume. On a la boutique du label en ligne sur laquelle on impose nos prix, ce qui fait que ça donne un baromètre un petit peu aux autres revendeurs. Donc, ils ne peuvent pas non plus faire ce qu'ils veulent au niveau prix public. Et nous, on vend déjà beaucoup en direct. C'était le but du jeu quand on a monté la chose il y a 15 ans. Et puis, on alimente beaucoup les disquaires indépendants. Et puis, on a une distribution avec Piass en France qui, du coup... fait que nos disques sont disponibles dans toutes les
grandes enseignes,
les Cultura, les Fnac, ouais. Les trucs comme ça, quoi. Est-ce que c'est intéressant? On continue de se poser la question. Voilà.
Donc ça, c'est pour les CD, hein.
Vinyle aussi. Vinyle aussi. Ouais. Et le numérique passe par Piass également. On a un volume qui fait qu'on a un label qui est pas dans le besoin, quoi. Voilà. C'est pour l'instant, le choix de garder cette grande distribution fait que ça nous permet de financer les petits projets qu'on fait à côté, qui iront peut-être pas dans la grande distribution d'ailleurs. Comme je parlais de N-Brigade, Cochise et Yoka, tout ça, ça. Mais qu'est-ce qui se vend le mieux? Le vinyle. Au début, on a commencé, on faisait que le vinyle, tu vois, il y a 15 ans, c'était... on a proposé au groupe de rééditer des disques pour avoir des prix normaux. C'était le vinyle. Et puis, à force de bosser avec Piass, ils nous ont dit, on a de la demande sur le CD. On s'est remis à faire du CD avec la logique de se dire, le vinyle commence quand même à être cher aujourd'hui à l'arrivée. Donc, si on fait du CD, c'est pour que les disques ils soient accessibles vraiment à... Les CD, ils sont à moins de 10 euros normalement aujourd'hui dans la grande distribution. Donc, ça marche aussi, en fait. Et le numérique, ça marche aussi. Donc, les trois marchent. Voilà. Si tu veux mon point de vue aujourd'hui en tant que label de punk, malheureusement, les trois marchent. Et on fait des... À notre toute proportion gardée, attention, hein, on n'est pas un gros label, on n'a pas une équipe de 10 personnes à salarier tous les mois, on n'a pas de...
Pourquoi se priver, quoi, finalement, si les trois fonctionnent?
Ouais, ben, le numérique, le téléchargement payant, ça marche pas. Ça n'a jamais marché, je crois, en tous les cas, pas avec nous. Par contre, nous, ce que j'appelle le numérique, c'est toutes les plateformes d'écoute en ligne. Donc, quand les gens ils nous tapent dans un moteur de recherche, ils puissent écouter nos albums, nos disques, j'allais dire gratuitement, mais bon, ce qui est gratuit sur Internet ne l'est jamais. Donc, il faut se payer soit un abonnement, soit supporter de la pub entre les morceaux. Mais voilà.
C'est-à-dire que vous êtes présent sur des plateformes là, vous avez choisi, du coup?
Ouais, je ne vais pas faire de pub, non. Mais je ne vais pas les citer.
Non. Est-ce que Bandcamp, par exemple, c'est quelque chose que...
Écoute, c'est la seule plateforme où on est très mal présent.
Ouais. En voilà une qui ne supporte pas de pub pour l'utilisateur et qui permet de vendre à prix libre ou à prix fixé,
ouais,
mais dont l'écoute est gratuite.
Non, je
vais faire un peu de pub pour elle, parce que je ne sais pas comment ils font leur beurre, ces gens-là, mais en tout cas, c'est vraiment... Ça a l'air dédié... au label ou au groupe, justement.
On a, par exemple, Lucrat Milk, on l'a mis sur Bandcamp. par le label, bah, comment la plateforme elle tourne, elle prend une commission qui est pas...
Et sur la vente.
Oui, oui, sur les ventes.
Prix libre.
Bah, elle la prend aussi sur ton prix libre. En fait,
si, mais si t'es à zéro, tous les gens qui mettent à zéro, en fait, ça t'a rien coûté d'être présent sur cette plateforme.
Alors oui, alors en tant qu'utilisateur de Bandcamp, je peux te dire aussi que la 15e fois que t'écoutes le titre, on te dit il faut l'acheter maintenant.
Ah bon?
Oui. Ah, sauf si t'as mis zéro, peut-être. Alors du coup,
si t'as mis zéro, tu peux charger l'archive, ouais.
Ouais. Quand si le disque est vraiment en vente, c'est-à-dire qu'il a un prix, tu peux l'écouter 5-6 fois, puis au bout d'un moment ils te disent bon, maintenant faut l'acheter et tu peux plus l'écouter. C'est assez frustrant.
Ça m'est déjà arrivé jusque-là.
Ça m'est déjà arrivé. Très frustrant. Et bon, voilà. Par contre, les disques à zéro, c'est une bonne question, mais en fait ils sont aussi à zéro sur toutes les autres plateformes et objectivement, au jour d'aujourd'hui, c'est le temps qui nous manque. Ça fait 4 fois, 5 fois qu'on en discute avec le copain avec qui on fait tourner un peu la machinerie là, et qu'on dit on va mettre la discographie sur Bandcamp. Ouais, on va la mettre. Ouais. Faut qu'on la mette. Voilà.
Ça viendra.
Ça d'ici 3 ans, je pense qu'on y sera quand ça aura peut-être fait faillite. Mais c'est toujours un temps de retard. On devrait y être. Et ça changera pas la donne.
Je voulais pas faire de pub pour Bandcamp, surtout pas en fait.
Non, hein. ça reste une boîte, hein, ça reste une boîte avec un fonctionnement économique qui est pas anodin pour les groupes qui vendent dessus. Avec, je crois qu'on a un espace de stockage limité en plus.
Ah.
Côté label, faut qu'on achète sûrement un abonnement, un peu comme SoundCloud ou des choses comme ça.
Voilà, bon, il y a quand même un vice, enfin. Non mais je suis content d'apprendre l'envers du décor aussi.
Il y a rien qui est super hein, sur Internet, soyons francs. Ouais.
Bon, est-ce qu'on a fait à peu près le tour de tout ce que tu aimerais nous raconter encore sur ce label des archives de la zone mondiale ?
Ouais, ouais, bah c'est un label, en tous les cas, qu'on est content de mener au jour le jour. On est désespéré quand notre distributeur nous demande le planning des prochaines sorties, par exemple. Tu vois, ça c'est...
Pias, en l'occurrence.
Ouais, ouais. Moi, je sais pas... Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, je sais pas comment fonctionnent les autres labels, mais nous, c'est à l'empirique... Chaque journée a son flot de trucs urgents à boucler et on essaye de les faire. On prend du retard sur la journée du lendemain. Donc peut-être qu'on va continuer à gonfler un peu l'équipe. À voir. On y réfléchit dans le sens de se dire continuer à croître l'équipe ou continuer à croître le rythme, c'est nous foutre aussi dans des dynamiques qu'on n'a peut-être pas envie d'aller. On est déjà suffisamment à la bourre comme ça pour pas en rajouter. Donc ça, on verra où va nous mener la barque. Au bout de 15 ans, on a quand même fait pas mal de bon boulot. À voir ce que nous réservent les prochaines années. En tous les cas, on n'est pas à court de projets ou d'envie. Faut juste...
Et donc vous avez la totale liberté. C'est-à-dire, Pias ne vous met pas non plus la pression à dire « Bon, il faudrait quand même sortir ça, ça serait génial. »
Ah non, très très loin de là. Non, non, c'est même nous qui... c'est même nous qui les contactons. On leur dit « Bon, bah là, on a prévu de sortir un disque... » Vous nous suivez ou vous nous suivez pas ? Et sur certains, ils nous suivent et sur d'autres, ils nous disent vous n'avez peut-être pas besoin de nous sur celle-là parce qu'effectivement, on va être dans du plus confidentiel. Donc, non, c'est super. Bon, sans révéler un mystère, aujourd'hui, la personne avec qui on bosse chez Pias, par exemple, c'est Yves qui gérait le label Visa à l'époque. Dans les années 80, qui a sorti la première cassette live des Beru, qui a sorti la première cassette live des Ludwig, la première cassette live de N Brigade. En fait, il connaît tous les groupes dont on s'occupe, on pourrait s'appeler presque archive de Visa aujourd'hui. Donc il y a un très bon feeling, un très bon relationnel avec notre distributeur qui connaît les groupes dont on s'occupe. Et franchement, c'est royal, quoi.
Pias qui, au passage, c'est quand même toujours plus ou moins concentré sur une scène alternative, il faut le dire.
Pour la France, parce que c'est un label belge à l'origine, qui est vite devenu international, qui a une très grosse notoriété, qui n'est pas du tout dans la même scène ou dans les mêmes logiques en Angleterre.
Oui, tout à fait.
Voilà.
Oui,
mais en tous les cas, pour la France, au moins on est contents, ils savent de quoi on parle, nous, avec nos productions, et du coup, ils ont la résonance qui va bien avec, je trouve. Quoi. Voilà.
Et Paria, t'es installé dans le Diois ?
Ouais, depuis peu. Depuis peu, après 12 ans d'ermitage, tu vois, encore une fois, je porte mon pseudo à bras le corps. 12 ans de solitude dans le Vercors. J'ai commencé à trouver le dernier hiver particulièrement long et rude et je me suis dit, allez, on va se descendre, on va reprendre quelques degrés là. Donc voilà, je voulais rester en visuel sur mes montagnes que j'aime beaucoup, les forêts, les montagnes, mais donc pas très loin, mais plus sur le Vercors, ouais. Ouais. Pendant longtemps, les gens avec qui on travaillait, ils disaient « Oh, vous êtes sur le Vercors, la résistance, tout ça, super, ouais. »
Ouais, un peu de symbole, ouais, voilà. Jusqu'au bout.
Voilà, maintenant on est à côté de la rivière et il fait chaud, il fait beau. Et puis on retrouve un peu de présence humaine, ce qui est pas mal. Voilà.
Et un petit concert avec les Slugs, le 6 juillet, on peut l'annoncer, c'est un scoop ou pas ça?
Alors c'est un scoop, on va en rediscuter encore aujourd'hui. Je crois qu'il y a des bâtons qui se mettent dans les roues, mais on va essayer de le maintenir coûte que coûte. Donc le 6 juillet, il y a les Slugs, mais il y a l'autre côté de la pièce de chez Arech qui s'appelle les René Binamé. Ouais. Donc il y aura le même batteur pendant deux concerts. Donc une double affiche belge. J'imagine qu'on va faire des frites ce soir-là à la buvette. Ce serait...
voilà. Mais les bâtons dans les roues, c'est quoi? C'est sur la date peut-être? Enfin, c'est pas fixe ou c'est sur l'organisation?
Non, c'est juste au niveau de l'orga. Il faut qu'on se mette en adéquation avec des demandes, pas des groupes, mais plus voilà.
Les normes, les machins.
Voilà, exactement. Ah, okay. Vu que le lieu est pas un lieu de concert habituel, même s'il y a souvent des fêtes là-bas. Donc bon, le plus sûr, c'est de regarder les murs et de voir les affiches fleurir d'ici une quinzaine de jours, voilà. Je pense.
On n'a pas dit où c'était. Et
Que ça se trouve, ça va bouger.
Bah oui, c'est ça. Donc c'était
mais le 6 juillet. Coup, voilà, on a quand même deux pionniers du punk belge en escaladie. Voilà.
Les archives de la zone mondiale sont sur Internet. Ouais. Si on prend contact, ben du coup on risque de,
sur moi
de tomber sur toi.
Ouais. Ah ouais, je
réponds. Qui colle les timbres avec
j'ai
la langue.
Je crois que j'ai créé plusieurs boîtes mail, mais c'est moi qui les relève quasiment toutes. Sauf quand il y a des. Non, c'est plus quand il y a des copains ou des copines qui nous filent des coups de main, ça permet de leur transmettre une boîte mail pendant le temps qu'il faut, sans que voilà. Mais ce matin, tu vois, avant de venir à l'interview, j'ai collé mes étiquettes sur les colis, je les ai amenées au bureau de poste et hop, je suis venu au studio. Voilà, puis je retourne en faire, là j'en ai encore une dizaine. Voilà. Non, bah là, avec la précommande, on a lancé la précommande du dernier Ludwig, c'est un peu le raz-de-marée, quoi. Et pour un homme tout seul, c'est un peu beaucoup, mais...
Ça fait plaisir, non? Quand même.
C'est pour ça que j'ai voulu faire l'archive il y a 15 ans avec FZM aussi. Du coup, c'était ça l'objectif. L'objectif, c'était peut-être pas de le faire tout seul, mais l'objectif, c'était d'arriver à avoir un contact direct entre les groupes, le public, et voilà. Et on y est parvenu. Donc, mission partiellement accomplie.
Paria, je te remercie de nous avoir livré ce travail. Ça nous fait bien plaisir. Hein. On a quelques émissions qui tournent bien avec des groupes qui sont maintenant dans les archives de la zone mondiale. Tiens, on termine avec un morceau de musique. Tu veux qu'on passe quoi de chez toi?
Ah, le meilleur.
Vas vexer tous les autres et puis c'est pas grave. Même tu sors nous un truc des archives, je sais pas, un truc qui est même pas pressé, qui est plus pressé. Dont on pleure de sa réédition, je sais pas.
Ça, c'est une bonne, très très bonne question.
Il n'est pas préparé, hein, ouais. Il ne savait pas.
Non, ça sera du montage. qu'est-ce que je pourrais te dire comme groupe? Non, moi le groupe que j'aime beaucoup, c'est Mondragon. Ça sera un morceau de leur premier album. C'est vraiment un groupe dont je suis très content d'avoir amené et qui aujourd'hui, moi personnellement, je trouve à toute sa place aux côtés des vieux dinosaures qu'on publie. J'aime bien ce côté générationnel, tu vois, on a fait des groupes des années 80, on a fait des groupes des années 90, beaucoup plus dans l'anarcho-punk. Et puis les groupes des années 2000, ben ça rame un peu, tu vois, pour les faire connaître, pour qu'ils... Et ça a été mon gros coup de cœur, peut-être même qui m'a continué de m'accrocher à la scène punk dans les années 2000, alors que c'était un gros retour en arrière sur tout ce qui se faisait avant, et les gens s'intéressaient plus beaucoup aux nouveautés. Donc
même la production baissait un peu, hein, aussi.
Ouais, bah tout, hein, la pratique, le discours, la qualité. Ça, c'est un groupe que vraiment que j'ai un gros coup de cœur. Voilà. Donc si tu veux passer un morceau, soit un titre du premier album de Mondragon, soit aussi un autre coup de cœur, un morceau de Traumatisme, qui était le groupe que Laurent Berru a fait après The Six, qui a suivi Berru, en fait, dans les années 90, qui était un groupe dont on essaye de préparer des choses autour, mais c'est pas simple. Voilà.
Merci et à la prochaine.
À bientôt.
Morceaux de chair, destinés au plaisir des hommes, le poids de l'oppression devient.